Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on diffuse les trois premiers épisodes de À l'œil nu, un océan à entendre, et des extraits de Sonar's Tapes, un album de François Joncourt. Entre mars 2024 et mars 2025, Claire Vesset a tendu son microphone aux professionnels, aux chercheurs, chercheuses, habitants, habitantes, qui observent et cherchent à comprendre ce qui est à l'œuvre dans les milieux littoraux et maritimes. L'infiniment petit, le lent ou le lointain, le changeant ou le fragile, et qui nous concerne toutes et tous. Nous, les terriens et terriennes.
N'hésitez pas à chausser vos écouteurs ou votre casque audio pour une meilleure qualité d'écoute. À l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales. Par Claire Veissé. Première étape, la rade d'amour en pointe d'Arcée. Juin 2024. Je note dans mon carnet. Difficile de comprendre la géographie des lieux sans avoir une carte sous les yeux.
On pourrait dire donc déjà le trait de côte, le littoral.
Je note.
L'estran.
Terre et eau entremêlées.
Les anses, les baies.
L'eau est dans les terres.
Les embouchures.
La terre parmi la mer.
On dit souvent qu'il n'y a pas de différence entre un estuaire et une embouchure. Moi, je pense qu'il y en a une.
Marine Le Breton, artiste cartographe, m'aide à trouver les mots.
Et d'autres mots plus généraux, ben, un pic, un cap, un isthme. L'isthme, la notion d'isthme, elle est géniale. La presqu'île. Ici, il y a un mot qui a nulle part ailleurs, c'est le pertuis. On a le pertuis breton, le pertuis d'Antioche. Le pertuis de Montmusson. Je pense qu'il y a d'autres lieux en France qui pourraient avoir la nomination de pertuis, or ils ne l'ont pas.
Mars 2025.
Donc voilà, la partie un peu privative, réservée à la biodiversité de la pointe d'Arcée.
Rendez-vous avec Régis Gallet de l'Office français de la biodiversité.
Juste en face, dans le milieu du chemin, il y a un chevreuil.
Regarde. Secteur fermé au public de la pointe d'Arcée.
Bah, il se demande ce qu'on fait là, il n'a pas l'habitude. On est sur une pointe sableuse qui est quasiment contemporain de notre époque et va grandir chaque année depuis plus de 200 ans. De entre 20 et 50 mètres de long, si bien que quand vous la regardez vue du ciel, en gros la pointe d'Arcée c'est une succession de dunes et donc du coup en quelques mètres vous passez d'un milieu à l'autre et ça c'est tout l'intérêt de ce site, hein. On a une telle diversité d'habitats successifs qu'à chaque fois et bien on a un cortège d'espèces différentes. Donc, c'est un territoire qui est en partie protégé depuis les années 60, qui est fermé au public depuis les années 70. Il y a un niveau de tranquillité de la faune sauvage qui est relativement intéressant. On va y retrouver un certain nombre d'espèces qu'on aura du mal à retrouver ailleurs sur le territoire. Elles sont sensibles au dérangement, quoi, et donc on ne les retrouve pas ailleurs. Donc là, on va arriver sur la côte sableuse de la pointe d'Arcée. Donc en face, on va arriver sur une grande plage, donc une plage quasiment de 8 km. Et puis en face, on a donc les fameux bouchots de la Faute-sur-Mer. Et juste à l'horizon, on voit l'île de Ré. Au bout à gauche, il y a le pont de La Rochelle et le port de La Rochelle tout au bout. Et là, on a l'architecte des dunes, Loya. C'est vraiment la plante pionnière qui va permettre de capter du sable et de faire d'engraisser la dune, comme on dit. Et donc, qui contribue très largement à la protection du littoral. Là, on a une trace d'un micro-mammifère qui a traversé, là. Ça peut être un petit campagnol ou un mulot. Espèce de petites mains à cinq doigts et avec une pelote à l'arrière, et qui sont très rapprochées, à 4-5 cm les unes des autres, et qui traversent devant nous dans la dune. Hop. Et ça, c'est du lièvre variable, avec les pattes avant qui sont derrière et les pattes arrière qui sont devant. Un escargot qui a fait une traînée qui s'est enfouie. Quand vous faites des balades dans la dune, c'est vraiment un petit livre de ce qui s'est passé dans la nuit.
Je note dans mon carnet. Labo scientifique Pélagis, chercheur qui observe et veille sur la mégafaune du monde entier.
Ouais.
Oui.
Voilà, on
s'est
vérifié.
09-2-09-2.
C'est parti.
Les conditions, je les veux bien.
R1. 2-1, c'est quand t'as des petites tribules.
Ouais, c'est peut-être plus de 1 petit 2, mais.
Ok.
Ok. La houle, il n'y en a pas trop.
Non.
0, turbidité, peut-être 1
quand même. Peut-être 2, ouais.
Les scientifiques regardent la mer vue du ciel et notent chaque être observé.
Et là, on a un soleil d'hiver encore assez bas, tu
vois. Et là, l'eau, elle paraît hyper claire.
Leur langage est codé.
Hop, à droite, 2 sulbasses adultes posées. 1 sulbasse adulte en vol, sous l'avion, il y en a 2.
Sulbasse, foot bassin.
Hop, à droite, 4 alcuries posées.
Alcuries. Pingouin ou guillemot.
Hop, à droite, un alcurie posé. Hop, à droite, il y avait 2 alcuries posées. Hop, à gauche, 8 larmines en vol.
Larmine, mouette, larmine. Pygmée.
Et on va tourner juste au nuage, en fait.
Ouais, à peu près.
Ah, waouh. 12 Deldel, dont 3 jeunes.
Deldel, dauphin commun.
Vu sous l'eau à 75 et ils allaient vers le 80. Hop, à gauche, une Jelly.
Jelly, méduse.
Hop, à droite, un Fofo.
Fofo, marsouin commun.
Le 71, vu sous l'eau, en swimming, vers le...
Swimming, 130. En nage normal.
Hop, à gauche. C'est quoi, ça?
Ça nage, ça vole.
Hop, à gauche. Waouh! Un énorme thon! C'est un thon, mais énorme! Plus gros qu'un dauphin.
Ah ouais?
Oui.
Vache.
Un gros thon rouge, quoi. Un mol-mol, angle 70.
Voilà. On en a un.
Mol-mol, poisson-lune.
Ah, là, vous allez avoir pas mal d'oiseaux, là-bas.
Ouais. Oh là là.
Je suis pas sûr.
Ouais, il y a plein de pierres au-dessus de l'eau là.
Bon. Hop, à gauche, un sulbasse adulte posé. Hop, à gauche, un 4Q en vol.
4Q, grand lab.
4 sulbasse adulte posé. Hop, à gauche, 5 sulbasse adulte en vol. Hop, à gauche, un 4Q en vol. Hop, à gauche, 5 alcuries posées. Hop, à gauche, un alcuries posées. Hop, à droite, il y a une smuggle en vol qui vient de passer sous l'avion.
Smuggle, mouette indéfinie. Mars 2025, appelé Jean-Robert Barito de la part de Jean-Pierre de la LPO Vendée. Bénévole, ornithologue, connaît bien le littoral depuis tout petit.
C'est un coin très intéressant, et surtout en hiver, pour tout ce qui est migration, quoi, d'oiseaux et tout, il passe beaucoup par là. Mais aujourd'hui, c'est calme. Les oiseaux qui viennent passer l'été ici, bah, on est encore un peu tôt, quoi. Ils sont encore pas arrivés, quoi. Et ceux qui passent l'hiver ici, bah, ils sont partis.
Alors, vous utilisez quoi comme matériel ?
Bah, une longue vue. Pour un ornitho, c'est indispensable. Parce que si on n'a pas de longue vue, on est perdu. Je l'ai entendu courlis. Il y a du courlis cendré, c'est sûr, je les entends. Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'oreille aussi. Hein. Non, mais je ne les vois pas. Et pourtant, je viens de les entendre, donc ils sont bien là. Courlis cendré, hein, parce que bientôt, on va voir du courlis corlu.
Et il n'y a pas longtemps, il y a un oiseau qui a été décrété comme éteint.
Oui, c'est le courlis à bec grêle. Il est éteint, on n'en voit plus du tout. Mais ça, c'est la disparition de l'habitat et puis pesticides et tout.
Ça arrive souvent qu'on décrète...
Non. Chez nous, non. Il y a des espèces qui sont vraiment menacées, qu'on appelle ça. Mais on n'en perd pas beaucoup quand même. Enfin, lui, il en fait partie. Le courlis à bec grêle, il a été vu en 68, ben, en baie de l'Aiguillon. Après, il y a certaines espèces qui descendent plus jusque-là ou qui montent plus... Enfin, surtout qui descendent plus jusque-là. Quand vous pensez, c'est des sacrés migrateurs. Vous vous rendez compte les kilomètres qu'ils peuvent faire. Les oiseaux, ils sont pour ainsi dire tous migrateurs. Après, ils migrent sur plus ou moins longue distance, mais ils migrent tous, quoi. Mais s'ils peuvent migrer moins longtemps, ils le font aussi. Hein. Parce qu'en fait, les oiseaux migrent, c'est surtout pour la nourriture. Quand il n'y a plus de nourriture, il faut partir. Il n'y a pas le choix. Alors que maintenant, il n'y a plus de froid. Mais ils arrivent toujours à trouver de la nourriture, donc ils se déplacent moins. Alors ce qui fait que tout change, quoi. J'ai toujours été ornitho, mais depuis que je suis à la retraite, ça fait maintenant une dizaine d'années, et c'est une catastrophe, parce que ça diminue d'année en année, quoi. C'est fou. Il y a probablement des avocettes, là. Oui, effectivement. Ça, c'est des avocettes. Il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous voulez regarder. Notre but, c'est de compter tous les oiseaux d'eau, c'est-à-dire tout ce qui est limicole, quoi, justement, dont les avocettes font partie, et tout ce qui est anatidés, même oies, à l'occasion, quand il y en a. Tout ce qui est canard et oies, c'est des anatidés. On appelle ça des anatidés. Là, ça permet de savoir si les populations résistent ou diminuent, quoi. Mais ça a tendance, malheureusement, à diminuer.
Comment on continue, du coup, de faire ça, alors que... Pourquoi ?
On continue à compter. Il le faut, justement, que les gens soient au courant, quand même, de ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, c'est ma vie. Il faut dire le mot, c'est ma vie, quoi. Je passe mon temps à faire ça. Si je vois pas d'oiseaux, je suis perdu. Voilà. Alors ça, c'est un râle. Alors ça, par contre, ça me surprend de voir un râle ici. Un râle d'eau, je précise. Hein. Parce que le râle déjeuner, il n'y en a pas ici. Il n'y en a plus de râle déjeuner, c'est pas compliqué. Mais un râle d'eau, c'est surprenant, j'avais encore jamais entendu un râle d'eau ici. Après, c'est un râle qui, à mon avis, doit être en migration et puis qui passe là. Il est là aujourd'hui et puis demain, il ne sera plus là. On va redescendre tranquillement. Pardon.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Première étape, la rade d'amour en pointe d'Arcé. Avec Marine Le Breton, Régis Gallet, les scientifiques du laboratoire Pélagis et Jean-Robert Barito.
Par contre, je suis passé, tu sais, en allant à la pointe là-bas, il y a toujours des échasses, il y en a encore pas dedans.
Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité.
Après, c'est le début. Hein. Ben oui, mais on est toujours pressé. Si
Prochaine étape, le port du pavé à Charon. À l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales par Claire Veissé.
Je travaille sur des micro-organismes, des petites bêtes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ces micro-organismes, en fait, c'est la base de tout. Sans eux, on n'a pas de vie, en fait.
Deuxième étape, le port du pavé à Charles.
Hey, ces bateaux-là, là, ils sont là pour quoi ?
C'est quoi comme bateau, ça ?
Eh ben attends, les mitiliculteurs, pourquoi ils sont là ?
Ah, parce qu'ils sont là.
Ils sont réparés.
Comment on appelle ça, à Cotonou ?
Une rénovation.
Le carénage.
Alors ? 11 juillet 2024, je note sur mon carnet. Découverte du port du pavé. Super terrain de jeu.
C'est quoi la ME ? Bonjour. D'accord, c'est cool ça.
Rendez-vous à la mairie.
En plus, vous avez de la chance, c'est du soleil.
Grande activité de mitiliculture. Site qui vit presque H24. Apprécié des locaux et des visiteurs. Réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon.
Alors, je vous explique aujourd'hui, le but du jeu n'est pas que de se salir. Si aujourd'hui on va dans la vasière, c'est pour quoi ?
Ramasser des coquillages.
C'est ça, c'est trouver des vers et des coquillages. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire l'inventaire de la macrofaune, donc les espèces qu'on peut voir avec nos yeux, qui sont dans la
vasière.
Ouais. On utilise les mains parce que c'est comme ça qu'on arrivera à sentir des choses. Qui veut bien aller me remplir les trois secondes ? Il faut trois personnes.
Novembre 2024. Rencontre avec Hélène Agoguet, chercheuse au laboratoire Liens.
J'ai découvert toute une diversité que je ne connaissais pas dans les marais et dans la Charente et sur les eaux côtières où c'est de l'eau très turbide. C'est vraiment cette richesse en termes de vasières. Tous ces oiseaux qui viennent, ces huîtres, ces moules. En fait, il fallait trouver l'explication pourquoi tout était là Et c'est parce qu'on a une diversité au niveau biologique qui est assez énorme.
Il y en a deux. Là, t'en as un gros, là. Là, c'est le
là. Et il est où ? Il est là.
Mais t'en trouves qu'il est gros ?
Il est là. Il faut rester au même endroit. Hein, pour pas mettre...
Non, regardez, là, tu peux faire.
Mars 2025. Rencontre avec Audran Chenu de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon et Jérôme Jourde, chercheur au laboratoire Liens.
Enfin, après, dans la baie, c'est très peu de chances que ce soit Corophium marinarium.
Oh, c'est un gros mal, ça.
Mais il est gros.
Non. B12, celui-ci. Alors ça c'est... T'as mis quoi là-dessus ?
J'ai rien mis là-dessus. Bah, les amphipodes...
Hirotoe Poseidonis.
Ah ouais.
Ouais. Déjà quand t'as ça sous les yeux, tu sais qu'il y a du sable.
Et il y a ce dernier truc. Oh. Je sais pas ce que c'est.
Ouais, c'est un verre plat, hein. C'est un platelminthe.
Ah ouais, ouais.
Bah, je pense. Hein.
Hirotoe Poseidonis.
Oh. T'as mis quoi, Nephthys quoi ?
J'ai mis Nephthys. J'hésitais entre Syrosa ou Umbergi.
Il y a une morphologie.
J'ai
de
vu la Syrosa.
Syrosa. Ah, elle est belle, hein ?
Toi, tu dis c'est Syrosa.
On me donne deux secondes pour l'identifier, je dis Syrosa direct. Ouais. Mais là, en regardant un peu plus près, ça me fout un peu le doute. Franchement. Ah non, si, c'est de la Syrosa. Ouais, ouais. Elle a des lamelles parapodiales qui sont énormes. Ça, j'avais jamais vu. Elle est vachement gracieuse, je trouve, cette Nephthys. Puis elle a la tête rose, c'est souvent le cas. Donc ça c'est Cirrosa.
Ok.
Sans aucun doute.
En fait, on a divisé le vivant en boîtes. Il y a des boîtes de taille déjà. Moi, j'étudie qu'un compartiment. La macrofaunmatique, donc la faune visible à l'œil nu qui vit sur les fonds marins. Il y a vraiment une très très grande diversité de, on va dire, de fonctions. Ça, c'est très anthropisant comme remarque, mais ils vont, notamment, ils vont pas se nourrir de la même façon. Donc, il y en a qui vont filtrer l'eau, il y en a qui vont manger du sédiment, il y en a qui vont manger des cadavres, d'autres qui vont chasser leurs proies et les manger. Donc il y a et puis d'autres qui peuvent faire plusieurs choses. Il y a ça, il y a les modes de reproduction aussi qui peuvent être extrêmement diversifiés. Ou des fois on se retrouve avec devant des organismes qu'on a du mal à identifier, on a du mal à trouver les sources pour les identifier. Et ça aussi, c'est un côté un peu attrayant du métier, cet aspect un peu enquête. Il faut trouver un moyen pour ne pas les confondre. Si on veut pouvoir les étudier, suivre leur population, voir comment elles se portent, il faut qu'on puisse les nommer, parce que pour ne pas se tromper, pour ne pas regarder autre chose. Ce sont des témoins de ce qu'elles subissent, du milieu dans lequel elles vivent. Il y a les coquillages qui peuvent se retrouver à la côte, après les tempêtes, avec le ressac. Mais sinon, la majeure partie des organismes qui vivent au fond, on ne les voit jamais, si on ne va pas les chercher.
Environ 3h30, là on s'en va pêcher des poules, tout bouchot, et on est au port du Bavé. Voilà.
À bientôt.
Bonne nuit.
On arrive un peu trop tard.
C'est un peu
bizarre. Ça se mange. Faudra faire le tri en rentrant.
C'est vraiment tout petit.
On a fait des bons, là. Vous voulez venir?
C'est beau.
Pas mal.
Et quand on met notre main, elle se coupe.
Tu veux travailler là-dedans?
Bah oui, parce que mon père il travaille dedans, du coup je vais reprendre l'entreprise.
Ah oui. Ici?
Oui, ici. Bah oui, moi c'est ce que je fais depuis tout petit. Du coup, bah. J'aime ça.
Bah peut-être à une prochaine alors.
Bah oui, hein. Ça se trouve. Au revoir.
Ouais, salut.
que vous écoutez ?
J'enregistre les vagues, les allées et venues des gens, les oiseaux.
Bah, c'est fou ce lieu. C'est la Finistère. C'est une chose incroyable.
Vous connaissiez pas ?
Non, c'est la première fois. C'est un lieu fou parce que la terre finit et il y a seulement la mer avec une porte. C'est une chose très étrange.
Ouais.
Ouais.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Deuxième étape, le port du pavé à Charon, avec Hélène Agogué, les élèves de l'école de Charon, leur professeur et Hélène Goussens, Jérôme Jourde, Audran Chenu, Vincent Gauthier et des visiteurs plus ou moins habitués du port du pavé.
C'est comme la Patagonie.
Au revoir.
Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité. Prochaine étape, le phare de Chassiron à l'île d'Oléron. l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales par Claire Veissé. Troisième étape, le phare de Chassiron. Je note sur mon carnet, nuit, soir, automne, à la tombée de la nuit, il n'y a personne sur la plage. Chaque soir, la nuit tombe et il n'y a personne. Octobre 2024. Je note, rendez-vous, Dominique Abbey, directeur du phare.
Comme tous les Finistères, parce qu'on appelle ça des Finistères, c'est le bout du monde, hein, on ne peut pas aller plus loin. Tout le monde peut se rejoindre ici, puis c'est un cul-de-sac. Donc c'est vrai que ça attire du monde, même s'il n'y avait pas de phare, il y aurait quand même du monde qui viendrait.
Ah oui, vous pensez ?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui.
Pourquoi ?
C'est le bout. On aime bien aller jusqu'au bout. L'être humain est comme ça. On avance, jusqu'à temps qu'on puisse plus avancer pour regarder le paysage. Donc là, vous avez la maison de la Pointe, juste au pied du phare. Donc c'était le bâtiment de 1685 qui servait de stockage pour la vieille tour à feu. Au large, là, on voit un mur. On voit les écluses à poissons. Donc c'est une méthode de pêche traditionnelle.
Il y en a un là, oui, je sais pas ce que c'est, mais il y en a un. Il y a un mulet là-dedans. On va mettre ça.
Donc, pendant que la mer monte, les poissons vont se balader dans cet espace.
La grille, comme ça, il ne peut pas sortir.
Et lorsque la mer va redescendre, les poissons vont rester au sol, vont suivre la marée, et vont rester bloqués, justement avec ce mur, ça fait comme une grosse nasse. Avec les bouchons au fond, l'eau va s'écouler, mais le poisson va rester prisonnier à l'intérieur. Et les côtes détenteurs vont venir pêcher le poisson. Et qui va rester vivant dans les flaques. Donc même s'ils ne viennent pas le pêcher, le poisson peut repartir à la marée suivante.
Voilà. Un petit bug. Ah, ça, c'est du poisson de Méditerranée. Hop là. Bon, bah, maintenant, on n'a plus qu'à aller les rejoindre là-bas. Il y a moins d'eau ici.
Si vous voyez une écluse qui est encore debout, c'est qu'elle a explosé. Parce que ça nécessite quand même pas mal d'entretien, surtout avec les tempêtes d'hiver. Donc si elle est encore là, c'est qu'il y a des personnes qui s'en occupent.
Là, sommes dessus, là, pareil. Tous les trous, là, on les... Ouais.
Là, j'ai pas pris la barre. Il y a une barre ?
On a des barres.
Okay. Ça va le faire, hein. Bon, regarde.
Si, si.
Bon, ça va devenir pas mal.
Forcément.
Bon.
Ouais.
On va trouver un...
Eh ben, ça va le faire. Ça, c'est pas grave.
Non.
Là, ce qu'on cherche, c'est la structure solide. D'accord. Si tu veux, avec toutes ces pierres-là, bien calées, grosses, posées en bas,
ça calme tout,
là, du coup, c'est solide. Alors que tout à l'heure, ça ne l'était pas du tout.
Okay.
Ça demandait qu'à se casser la gueule.
Bon, on continue à ramener des pierres dans ce type-là.
Voilà.
Ok.
Voilà. Okay. Ah, ça remonte ? Ça remonte ?
Oui.
Donc on a une petite demi-heure là de reste. Et donc là, d'abord ça vient s'engouffrer dans le bouchot en faisant tout un tas de chouettes bruits. Et puis après ça vient taper sur le mur. Quand tu viens la nuit, surtout les premières fois là, et puis t'es là, juste à l'intérieur, et t'as la mer qui tape sur le mur, t'as toujours un moment de petite appréhension quand même. Est-ce que vraiment ça tient à ce mur? Bah ouais, ça tient, depuis le temps que c'est là, c'est sûr que ça tient. Mais c'est impressionnant.
Juillet 2024. Je note sur mon carnet. Sous l'eau, nous n'avons plus les mêmes repères. Rendez-vous avec Francis, apnéiste en milieu naturel.
Devant chez moi, il y a pas mal de roches verticales avec des arches, des canyons, des dalles, des trous. Ça se trouve en face de ce qu'on appelle le rocher vert. Il y a un endroit, c'est très intéressant de se promener autour. Le poisson se trouve là où il y a un habitat, là où il y a de quoi se cacher, là où il y a de quoi nicher. Dès que vous avez le milieu, automatiquement, il y a de la vie. Encore samedi, on a vu un congre hors de son trou, c'est assez rare. Il mesurait 1m50, 1m80, très long. Il était posé au fond, on le voyait avec son œil blanc et qui nous regardait. Il ouvrait la gueule parce qu'il devait certainement filtrer son eau, mais de le regarder comme ça, se promener sous l'eau, c'était assez étonnant. Quand on est sous l'eau, on aime voir ce qui s'y passe. Là, je viens d'aller voir justement, il y a une heure, la mer, elle est très belle. On voit à travers, quand on est en haut de la dune, on voit tout à fait la roche, les algues, les bancs de sable. C'est du plaisir de voir une belle sole, une raie, de voir des anémones, de voir des nudibranches. Enfin là, encore ces derniers jours, des petits animaux qui sont bleu marine et jaune, qui sont d'une beauté extraordinaire et qui font, je sais pas, peut-être 2 cm, mais qui sont absolument magnifiques. Il y a des couleurs sous l'eau qui sont absolument remarquables et qu'on n'a pas forcément comme ça ici-bas sur Terre. C'est tout sauf le silence sous l'eau. On entend des craquements, on entend les vagues éventuellement. Ça crépite. L'immersion, quitter le monde terrestre pour passer sous la surface de l'eau, on a le sentiment d'appartenir un peu au milieu. Je ne sais pas pourquoi le fait d'être en apnée nous fait un peu quitter notre état pour un autre état. Je ne sais pas. C'est peut-être le seul endroit sur Terre où on peut se sentir en apesanteur. La mer est grande et évidemment, il y a des endroits encore qui sont inconnus. Il y a une vingtaine d'années, j'étais sorti devant chez moi avec ma fille. On était tombé sur une roche, mais énorme. Eh bien, je ne l'ai jamais retrouvée. J'ai jamais retrouvé cette roche, qui était vraiment très, très impressionnante.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi de vous déranger.
Oh, vous me dérangez pas.
Vous campez ?
Pas vraiment. Pas vraiment, on est... En fait, mon mari, surtout, bon, moi un petit peu, mais est ornitho, et il est avec les jeunes de la LPO, là-bas, ils observent la migration. Hier, je suis allé les retrouver. Oh, ce matin, je trouve que le soleil est bien bon, je suis bien là. Voilà. Hier, j'avais jamais vu ça, enfin, on n'avait jamais vu ça. C'était la migration des pierrides. Il y avait des nuages de papillons blancs partout. C'était beau. Ils s'étaient posés, mais ils étaient affaiblis parce qu'il faisait trop froid. Ils s'étaient posés par terre sur le parking. J'ai passé tout mon matin presque à ramasser les papillons parce que ça me faisait mal. Les voitures arrivaient, elles écrasaient tout ça. Alors j'ai ramassé les papillons. Mais dès que je les avais dans la main, ils se réchauffaient. Et donc je les ai mis à l'abri du vent dans les grandes herbes. Ça a dû marcher. Mais j'avais jamais vu, moi, je ne savais pas que les pierrides migraient. La migration des pierrides, c'est incroyable. C'est vraiment, c'était extraordinaire, vraiment. Ouais, c'est sympa. Et puis, ben, depuis là, je guette. Tout à l'heure, il y avait plein d'hirondelles. Il y avait un busard Saint-Martin, là, qui volait sur... C'est beau, c'est beau. Ben, ça fait plaisir, parce qu'on se dit qu'il y a encore un peu de nature. Encore un petit peu de nature.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Troisième étape, le phare de Chassiron sur l'île d'Oléron. Avec Dominique Abbey, Francine Fèvre et les co-détenteurs de l'écluse à poissons, Francis Clairin et la Dame des Vosges. Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité. Prochaine étape, le phare de la Coubre à la Tremblade.
La séance de gymnastique sonore se termine. Vous avez entendu les trois premiers épisodes de « À l'œil nu, un océan à entendre », une série documentaire de Claire Vessé. Ainsi que « Interlude 1, ce qu'on entend », « Obsession et répétition » et « Scarigan Ara », des extraits de l'album « Sonar's Tapes » de François Joncourt. La semaine prochaine, on écoute la suite. D'ici là, pour plus de brasses sonores, rendez-vous dans les archives de l'émission sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.